1 Corinthiens, nous sommes au chapitre 6 que nous allons lire ensemble. Quelqu'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a pas parmi vous un seul homme qui sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers les frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair? Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alors, la semaine dernière, on a vu donc dans le chapitre 5 que Paul a relevé ce problème de débauche, et notamment l'inceste du chapitre 5. Et il exhorte les chrétiens de Corinthe et il leur dit « Mais vous avez le droit de juger, c'est à vous de juger une chose pareille. » Et il termine en disant « N'est-ce pas ceux du dedans, donc ceux qui sont dans l'Église, que vous avez, vous en tant que corps, à juger ?» Et dans ce sixième chapitre, Paul ne change pas de sujet, il continue dans sa lancée, toujours sur ce thème de la débauche, dans le but de garder justement de cette débauche. Et il va continuer, hein, puisque après chapitre 7, il va parler du mariage, hein, comme étant justement une solution aussi à la débauche. Mais là, juste avant, donc on voit la fin du chapitre 5, hein, il a parlé du jugement que l'Église doit faire sur ses membres qui glisseraient dans une situation de débauche ou de perversion comme ça avait lieu. Et donc, il reste un peu sur ce thème pendant quelques versets, et finalement, il pose cette question, mais sommes-nous en droit de juger? Est-ce que nous avons le droit de juger? Comme je l'avais dit dans le précédent message, il y a des cas où les enfants de Dieu doivent juger. C'est leur devoir. Il ne s'agit pas d'un jugement, jugé un peu par orgueil, quelqu'un, ou bien d'une critique, ou bien parce qu'on a un avis différent, ou parce qu'on voit les choses d'une autre manière, alors on juge l'autre, ce n'est pas du tout ça. Pour ces choses-là, Dieu dit « ne jugez pas, ne jugez de rien ». Laissez venir le temps du retour du Seigneur qui, lui, mettra en lumière les choses qui sont cachées. Mais ici, Paul parle d'autre chose, il parle de péchés avérés qui sont graves. Pour rappel, donc il citait la débauche, bien sûr, mais aussi la cupidité, le vol, l'idolâtrie, l'ivrognerie, les outrages ou les insultes. Et il semble que certains chrétiens de Corinthe avaient même saisi les tribunaux par rapport à des frères qui avaient peut-être commis des choses de ce genre. Regardez verset 1. Verset 1, il dit « L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints ?» Et ce qu'il va dire, c'est que l'Église, les saints en Jésus-Christ, sont en mesure de régler les différends des uns avec les autres. Ils peuvent juger, ils en ont la capacité, ils en ont même l'autorité qui vient de Dieu. Et donc, il semble qu'ils faisaient ça, mais Paul leur dit « Mais est-ce que vous ne pouvez pas vous tourner vers quelques frères spirituels qui vont juger de vos différends des uns avec les autres ?» Et puis, Paul relève « Nous jugerons le monde. » Il dit même « Nous jugerons les anges. » Quand il dit « Nous jugerons les anges », certainement, il fait référence aux anges déchus. Vous savez, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. On ne sait pas comment, mais à un moment, les saints en Jésus-Christ vont avoir part au jugement de ces gens, de ces anges. Alors, si Dieu nous rend capables et nous rendra capables d'avoir autorité et de prononcer un jugement sur des êtres célestes bien plus grands et bien plus puissants que nous aujourd'hui, alors, eh bien, il dit, mais vous êtes en mesure de juger aussi vis-à-vis de vos frères, des uns et des autres dans l'Église. Et c'est une raison suffisante pour ne pas aller jusqu'à se mettre devant des tribunaux pour des torts que nous aurions subis par un frère ou une sœur. Et on pourrait se dire, un juge de ce monde qui connaît toutes les lois et voilà, tous les rouages du code pénal, il est le plus apte à juger d'un différend entre deux personnes et même entre deux frères. Mais en fait, Paul dit, mais tout ne doit pas passer forcément devant un tribunal et devant des hommes à l'extérieur. Un juge ne va pas forcément prendre en compte la pensée de Dieu. Alors que les chrétiens qui marchent avec le Seigneur vont prendre en compte la pensée de Dieu. Et Dieu les rendra capables d'exprimer un jugement juste et sage. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faille tout juger au sein de l'Église locale sans que rien ne sorte à l'extérieur. En France, donc je suis allé un petit peu chercher, en France, donc j'ai vu qu'il y a trois types d'infractions. Il y a les contraventions, il y a les délits et il y a les crimes. Et c'est un peu par degré. Et finalement, la gravité de l'infraction, elle s'évalue à la peine encourue. Plus la peine est grande, c'est 10 ou 15 ans, c'est un crime. Voilà. Et si on réduit petit à petit, ça passe à délit ou bien à contravention. Pour ce qui nous concerne, nous, enfants de Dieu, il est bien entendu que des crimes, ils doivent être dénoncés à la justice. Ça ne peut pas être jugé dans l'Église locale, c'est évident. Quand on parle par exemple de meurtre, d'assassinat, de viol, de terrorisme, etc., bien sûr, il faut le dire et le dénoncer, ça doit passer devant un tribunal, c'est évident. Ensuite, il y a beaucoup de délits, donc la catégorie en dessous, qui demandent aussi à passer en justice. Par exemple, dans cette catégorie, il y a l'homicide involontaire. Un homicide, même si c'est involontaire, on va aller, bien sûr, le dénoncer. On va aller en parler. Mais peut-être que dans cette catégorie-là, certains délits peuvent parfois se régler entre frères sans nécessairement passer devant un juge. Et je pense par exemple à un vol simple, comme ça. Je dis cela parce que au verset 7 et 8, Paul dit « C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice ? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller ? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. » Alors, on ne sait pas à quoi Paul fait référence ici. Mais manifestement, il y avait des problèmes, des litiges dans l'église de Corinthe. Et les chrétiens, tout de suite, ils allaient saisir un tribunal. Et Paul dit non. Pourquoi vous laissez-vous pas plutôt dépouiller ? Et certainement, il y a des choses, il vaut mieux dire, bon, c'est entre les mains du Seigneur, c'est pas grave. Voilà, le Seigneur sait toutes choses. Il s'occupera de toutes choses. Ça, c'est ce que Dieu attend de nous. Et certainement, il faut voir au cas par cas. Et voir si c'est sérieux ou pas. Pour ce qui est des contraventions, de la même manière, il faut regarder au cas par cas. Il y a les violences et les coups légers qui rentrent dans le cadre des contraventions. Mais s'il y a une aggravation, parce qu'il peut y avoir aggravation dans certaines circonstances, alors là, c'est plus une contravention, ça passe en délit. Donc là encore, peut-être cas par cas, voir exactement de quoi il s'agit. Et pour résumer, Dieu nous rend capables par son esprit de juger du péché. Et l'Église est en mesure d'exercer un jugement en son sein. Juger, c'est certainement aussi évaluer ce qui nécessite d'être dénoncé devant la justice ou pas. Parce que si on ne fait pas remonter quelque chose de grave devant les tribunaux, ben, finalement, c'est nous qui pouvons nous retrouver en prison. Hein. Il y a des hommes d'Église et plein de personnes hein, qui se sont retrouvées en prison parce qu'elles n'ont pas dénoncé justement un crime. Mais de l'autre côté, ce qui serait dramatique, c'est de saisir les tribunaux pour des litiges qui sont bénins et qui vraiment invitent plutôt à dire, bien, le Seigneur a été dépouillé, moi aussi je peux me laisser dépouiller. Et je pense que s'il y a un doute, eh bien, il faudrait aller voir les anciens, les responsables d'une église et en parler ouvertement. Mais reprenons un peu le fil de la pensée de Paul. Donc, Paul va insister sur la débauche, encore dans ce chapitre. Et est-ce que ce n'est rien du tout qu'une vie débauchée, une vie de débauche, ou bien est-ce que ça compte, est-ce que c'est grave? Notre monde aujourd'hui répond, c'est pas grave, c'est rien du tout ça, quand même. Ce qui compte, c'est le plaisir, c'est d'être heureux, c'est le bonheur, hein, c'est la jouissance. Et puis, on entend aussi parfois, mais comment savoir si on s'aime, si on se connaît pas avant? Hein? On peut pas savoir si on s'aime, donc ça va échouer, donc il vaut mieux se connaître avant. Et pour le monde, donc ce qui est traduit du grec porneia, débauche, c'est-à-dire des relations sexuelles en dehors du mariage, pour le monde, c'est rien du tout. C'est pas grave, aucun problème. Il voit ça comme un besoin humain qu'il faut simplement assouvir. En tout cas, c'était cette pensée-là qui régnait dans cette ville de Corinthe que l'on sait vraiment débauchée. Et on va voir maintenant plusieurs arguments que Paul met en ordre finalement pour dire « mais ce n'est pas rien, c'est quelque chose de grave, la débauche ». Et ce qui serait grave pour nous, c'est finalement d'adopter petit à petit la pensée corrompue de ce monde et se dire « c'est pas grave ». Ça serait grave pour nous. Pourquoi les chrétiens devraient lutter contre la débauche? Peut-être la première chose qu'on peut dire, c'est parce que l'Église d'abord va les juger. On vient de voir le jugement. Et c'est clair que l'Église, eh bien, va dire quelque chose, va prononcer quelque chose. Christ porte un jugement sur celui qui pêche. Et ça devrait nous faire réfléchir. Est-ce qu'on préfère la communion avec les frères, la communion avec Dieu, ou bien être coupé finalement d'une vraie communion avec Dieu et avec les frères? Parce qu'au travers de l'Église, Dieu fera sentir sa désapprobation. Ensuite, deuxièmement, parce que on devrait s'éloigner de ces choses, parce que Dieu dit que ceux qui commettent ces choses n'iront pas au ciel. Il y aura un jugement pour eux. Regardez versets 9 et 10. Il dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Et dans cette liste, Paul souligne plusieurs péchés qui ont un caractère sexuel. des dérèglements, des infidélités, des choses contre nature. Et puis il ajoute les péchés qu'il avait déjà nommés, l'idolâtrie, l'ivrognerie, la cupidité, les vols. Si on compare les lois de Dieu et les lois des hommes, il y a vraiment un décalage, un vrai décalage. Vous regardez par exemple l'ivrognerie. Ce n'est pas une infraction. Hein. Du moment qu'on n'est pas sur la voie publique, du moment qu'on ne conduit pas en état d'ivresse, chacun peut se saouler derrière ses murs. Hein. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas condamné d'aller acheter de l'alcool et de boire. Mais devant Dieu, Dieu dit l'ivrognerie, mais c'est en enfer. C'est grave. Si on regarde l'adultère, plutôt accepté hein, dans le monde, c'est même, on entend, presque normal, avoir sa maîtresse, avoir son amant, ah, on le sait, même l'épouse le sait, ou le mari le sait, et parfois ils ont chacun de leur côté, hein, et on reste ensemble pour les enfants. C'est dramatique, hein, dramatique. Et qu'est-ce que risque l'homme pour ça? Pas grand-chose, hein. Peut-être perte de biens matériels, un divorce, et puis c'est tout. Et Dieu dit, je juge l'infidélité. Maintenant, le monde accepte aussi, et là on est en plein dedans, les déviations sexuelles, telles qu'elles sont nommées ici, mais Dieu n'a pas changé. Pour lui, eh bien, il dit, ils n'hériteront pas le ciel, ils n'iront pas au ciel. C'est impossible. Et certainement, l'enfant de Dieu devrait réaliser que c'est finalement vraiment coupable, ce serait vraiment coupable de revenir à ses péchés, péchés abandonnés, et que Dieu va condamner vraiment ses péchés. On ne peut pas dire « Oh, mais la grâce abondera, ce n'est pas grave. » Paul dit « Mais loin de là, ça veut dire « Non, impossible, on ne peut pas dire ça. » Et Dieu ne peut pas laisser faire indéfiniment. Au bout d'un moment, s'il nous aime, il doit intervenir. Sinon, il ne nous aime pas. C'est ça un père. C'est quelqu'un qui arrête, qui dit « Non, stop, mon enfant. Tu ne peux pas aller plus loin. » Et nous aussi, eh bien, il faut qu'on le réalise. Dieu est un père pour nous et il ne nous laissera pas aller plus loin. Pourquoi encore s'éloigner de ses péchés et de la débauche notamment ? Troisièmement, parce que Dieu a changé notre vie. Si on est chrétien, il a changé notre vie. Regardez verset 11. Il dit, « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Et une autre raison qui devrait faire qu'on s'éloigne de ces choses, Paul dit, mais c'est que vous avez eu une nouvelle vie en Jésus-Christ. Il vous a sauvé. Il a fait de vous une nouvelle créature. Dieu est venu nous chercher là où nous étions, dans la boue. Il est descendu dans la boue pour nous en remonter, pour nous en sortir. Bien sûr, on n'a pas tous commis ces péchés ou tous ces péchés. Paul dit « quelques-uns d'entre vous ». Il ne veut pas généraliser, dire « ben voilà, vous êtes tous des débauchés ou vous êtes tous des ivrognes ou... ». Non, ça ne veut pas dire. Mais quand on est dans la boue, il n'y a pas besoin d'avoir de la boue jusqu'au cou pour être dans la boue. Si on a de la boue jusqu'au genou, on est quand même dans la boue. Et Christ est venu tous nous sortir de la boue parce que nous étions tous dans nos péchés. Que ce soit au genou, à la taille ou jusqu'au cou, on était dans la boue et on avait besoin d'être sauvés. Et Jésus n'a pas fait de distinction. Il est descendu dans la boue de ce monde et il est venu nous chercher. En mourant sur la croix, suivi de sa résurrection. Et par cela, il nous a lavés, purifiés, sanctifiés. Et justifié, c'est-à-dire rendu juste. Il a mis sur nous sa justice. Il a ôté notre vieux vêtement et puis il nous a donné un vêtement blanc, pur. Un vêtement de sainteté, son vêtement, sa justice. Est-ce qu'on peut dire « Oh merci Seigneur, je vais retourner dans la boue maintenant ?» Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi encore s'éloigner de ses péchés ? Quatrièmement, parce que c'est un asservissement. C'est ce qu'il dit, verset 12. Il dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Et il semble que les chrétiens de Corinthe n'avaient pas bien compris ce qu'était la liberté chrétienne. On est libre en Jésus-Christ, c'est vrai. Il y a une liberté, nous ne sommes plus sous la loi. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de loi. Il est dit que nous sommes sous la loi de l'esprit de vie. Donc il y a quand même une loi pour nous, hein. C'est l'obéissance au Saint-Esprit. Alors tout m'est permis, mais dans le cadre de l'obéissance au Saint-Esprit. C'est important. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de loi du tout. Parce qu'il y a des choses qui n'apportent rien et qui, pire, nous amènent à être prisonniers. Le péché asservit celui qui s'y livre. Et quand on goûte à quelque chose qui représente pour nous une faiblesse, eh bien, on est en danger. On glisse, hein, et on n'arrive plus à s'en défaire après. On y revient et on y revient encore. Et c'est vrai pour l'alcool, par exemple, pour certains qui y sont sensibles. C'est vrai pour l'argent, pour d'autres. Hein, voilà, après, c'est une spirale, on en veut toujours plus. Et c'est vrai pour la débauche. Une fois qu'on goûte au péché, à ce qui représente notre faiblesse, ben la chair nous y entraîne. Et on y revient, et on y revient. Et une fois qu'on est asservi, eh bien, on n'arrive plus. On n'arrive plus à dire non. Et la liberté, la vraie liberté, c'est de pouvoir dire non. De dire non, je ne veux pas, j'arrête. Ça, c'est la liberté. En réalité, on n'est jamais libre. C'est ce que dit la Bible. Elle dit, on n'est jamais libre. Mais la chose, c'est qu'on peut choisir à qui nous voulons être asservis. Est-ce que nous voulons être asservis à ce que nous sommes, à nos passions, à nos péchés, ou est-ce que nous voulons être asservis à Jésus-Christ? Et c'est là que se fait le choix. L'asservissement sera toujours là. Mais celui qui est asservi à Christ, volontairement, et Dieu ne nous oblige pas, mais il nous y invite, il est libre de toutes les autres choses. Il est libéré. Et c'est finalement la vraie liberté, c'est d'être à Christ. Parce qu'après, on peut dire non, 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 et repousser les choses qui sont mauvaises. Pourquoi encore s'éloigner de ses péchés? Cinquièmement, parce que le corps est pour le Seigneur afin de le glorifier. On va lire versets 13 à 16. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Et les Corinthiens avaient pour penser que le corps, hein, donc avait des besoins sexuels qu'il fallait à tout prix assouvir. Et ils disaient que c'est comme les aliments sont pour le ventre pour les aliments, le corps est pour le sexe. C'est normal. Ils voyaient ça comme ça. Et il semble, donc je lisais dans un commentaire, il semble qu'à Corinthe, il y avait beaucoup de jeunes hommes qui avaient du mal à trouver une épouse légitime. Ils devaient souvent attendre qu'ils aient une trentaine d'années, parce qu'apparemment, la mortalité infantile était plus importante chez les petites filles. Donc, il y avait moins de femmes, et donc, ça prenait un certain temps, apparemment, avant qu'ils puissent trouver une épouse. Par contre, il est dit qu'il y avait des prostituées, beaucoup de prostituées dans la ville. Et donc, pour eux, ils se disaient, c'est normal qu'en attendant le mariage, on aille fréquenter les prostituées. Voilà pourquoi Paul parle des prostituées. Et dans ce contexte, Paul dit, le corps est pas pour la débauche, n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et on voit que notre corps existe premièrement pour Dieu. Nous avons été faits à son image. Nous sommes un reflet, finalement, de Dieu, de ce qu'il est dans sa personne. Ça signifie que chacun d'entre nous qui a reçu Jésus-Christ dans son cœur, il est destiné à devenir pour les autres créatures un moyen de glorifier Dieu. C'est-à-dire que les autres créatures devraient, en nous regardant, tomber en adoration devant Dieu, parce que nous sommes une image de Dieu. Regardez ce que dit Éphésiens, Éphésiens 1, 11 à 12. Il dit, Éphésiens 1, 11, « En lui, en Jésus-Christ, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui auquel, de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, ou bien afin que nous servions à la louange de sa gloire, selon vos traductions, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » Afin que nous servions à célébrer sa gloire. Voilà le plan de Dieu, voilà la pensée de Dieu. Dieu nous sauve et il nous prépare afin qu'on serve à le célébrer. Que toutes les créatures, en nous voyant, puissent le glorifier, puissent l'adorer, puissent dire « Oh, mais quel Dieu, quel créateur nous avons ! Qu'est-ce qu'il est grand ! Qu'est-ce qu'il est merveilleux ! » Simplement en plongeant les regards dans les enfants de Dieu. Lui qui est venu nous chercher si bas, en descendant sur la terre, et qui nous a remontés si haut dans le ciel, nous qui sommes, pour ainsi dire, des vers, et qui nous élève jusqu'à devenir co-héritiers avec Christ, enfants du roi, fils et filles de Dieu, dans la présence du Dieu Tout-Puissant, ben alors là, la créature, les créations, les créatures vont dire, mais c'est merveilleux, notre Dieu est un grand Dieu. Notre corps est destiné à glorifier Dieu. Alors, eh bien, Paul dit, le corps n'existe pas pour la souillure, il n'existe pas pour la vulgarité, il n'existe pas pour les choses basses, il existe pour la pureté, pour la sainteté, pour les choses hautes, élevées, qui vont glorifier Dieu. Bien sûr, quand nous nous regardons, intérieurement et extérieurement, peut-être qu'on se dit, c'est pas encore la perfection. Mais Paul dit, et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. C'est le prolongement, en fait. Parce qu'il va nous ressusciter afin que toute chose eh bien, soit toute à sa gloire et qu'on puisse vraiment le célébrer et être un motif de le célébrer. Aussi, Paul va renverser une pensée manichéenne qui était courante à l'époque, c'était de dire que l'esprit est indépendant du corps et que finalement on peut faire ce qu'on veut avec son corps, ça n'a pas d'importance, l'esprit n'en est pas touché, n'en est pas affecté. Donc on essayait de dissocier l'esprit du corps. Mais Paul dit, mais celui qui s'attache à la prostituée fait un seul corps avec elle. Et là, il fait référence à la Genèse, chapitre 2, verset 24, quand il parle de faire une seule chair, il parle du mariage. Donc, il le lie ici à l'union physique du mariage. Et en fait, il dit, mais ça dépasse l'union physique. Ce n'est pas simplement physique, c'est que ça affecte, ça touche tout, le corps, mais aussi l'âme, l'esprit, tout notre être. Et Dieu réserve ça, cette union, que pour l'époux et l'épouse, dans le cadre du mariage. Mais s'unir de cette manière dans la débauche et de surcroît à quelqu'un de débauché, qui n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est se souiller, faire un avec le péché, alors que Dieu veut qu'on fasse un avec son Esprit. C'est en complète contradiction avec notre vocation. Versets 19 à 20, il dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Et là, dans ces deux derniers versets, Paul relève deux choses. D'abord, le fait que nous avons été rachetés à un grand prix. Nous avons été rachetés au prix du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, mais c'est la vie de Jésus-Christ. Le Père a donné la vie du Fils afin de nous sortir de la boue. C'est inestimable, donner la vie de son Fils unique. L'apôtre Pierre, dans son épître, dit « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, par de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Le salut ne nous a rien coûté, mais il a coûté très cher au Père, il a coûté très cher au Fils. » Alors Dieu dit, mais non, ce n'est pas possible. Vous appartenez à Dieu. J'ai payé pour vous. Et ça serait mépriser le coût qu'a coûté le salut que de se laisser aller tomber. Ensuite, dans les deux versets qui suivent, on comprend le caractère sacré, je dirais, et saint de la conversion. Puisque si on a accepté le Seigneur, Dieu dit « Notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Le Créateur est en nous. Il est là. » Et soit il est acteur dans nos vies, quand on lui laisse le champ libre et qu'on lui obéit, soit il est spectateur silencieux de nos péchés, en fait, quand on lui désobéit et on marche dans la chair. Et Dieu pourrait nous obliger à vivre pour lui. Il en a les moyens, s'il veut. Il peut changer les choses et peut nous contraindre par la force à lui obéir. Mais plutôt, il nous appelle à venir volontairement. Il nous appelle à nous préserver dans la sainteté parce que l'Esprit Saint habite en nous. Et avoir des relations de débauche, ce n'est pas juste une question physique, comme il le prétendait, mais c'est souiller l'intérieur aussi, c'est souiller finalement son esprit, son propre esprit. Le péché affecte toujours l'âme et l'esprit. Tout à l'heure, on chantait un chant sur l'espérance, et j'ai vu que c'était Charles Rochedieu. Charles Rochedieu, c'était un pasteur, et il a écrit ceci, il a dit « Nous asservissons notre âme à notre corps, notre esprit à notre chair. » C'est fort, ça. Nous asservissons parfois notre âme et notre esprit qui sont plus élevés que ce corps qui n'est que de la poussière. Hein. Mais nous les asservissons en faisant des mauvais choix. Lorsqu'on décide de se laisser aller à des passions illégitimes, on impose finalement à notre esprit qui appartient à Dieu des choses mauvaises. Et le Seigneur dit qui veut qu'on le glorifie dans notre corps et dans notre esprit, dans les deux, dans tout notre être. Pour finir, la débauche est un piège pernicieux contre lequel nous ne pouvons pas lutter. Et j'aimerais terminer sur cela. Paul donne un conseil. Il dit « Fuyez la débauche ». En fait, il nous dit « Personne n'est assez fort. Personne n'a la capacité de dire « Non, pas de problème, moi, je ne peux pas tomber, je tiendrai bon, je peux résister à la tentation. » Dieu dit « Fuyez, fuyez, loin !» Parce que c'est un piège qui nous surprend et qui nous fait tomber. Dans les Proverbes, il est parlé de cette femme, si vous vous souvenez, qui séduit un jeune homme, etc. Et finalement, cette femme, on peut y voir la débauche personnifiée. Elle est la débauche personnifiée. Et elle dit, enfin, il est dit que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Ça, c'est la débauche. Elle a fait tomber beaucoup de victimes. Ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Dieu a d'autres plans pour ceux qu'il aime. Il a d'autres plans, plans de pureté, plans de sainteté, un avenir glorieux, un avenir céleste. Et si le monde glisse de plus en plus dans la débauche, s'il accepte ces choses, si même il en fait la promotion, eh bien nous, on doit être différents. On doit se tenir à l'écart et fuir. Il n'y a pas d'autre issue. Dieu a dit, « Vous serez saints, car je suis saint. » Quand il a dit cela, on peut le prendre comme un commandement, vous serez saints. Mais on peut le prendre aussi comme une promesse. Vous serez saints. Je vous le promets, vous serez saints, car je suis saint. Et je termine juste avec un dernier verset. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Et que vous ne vous livriez pas, comme les païens, hein, à toutes ces passions mauvaises qui détruisent le corps et l'âme. On va s'incliner dans la prière.